Nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons commencer la lecture au verset 7 jusqu'au verset 13. La parole clé, la pensée clé que nous voulons voir ce matin se trouve au verset 12, où il nous dit que tout cela c'est pour le perfectionnement des saints. Je commence à lire au verset 7. « Mais à chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Je m'arrête là, même si ce n'est pas la fin de la phrase, mais c'est la fin d'une pensée. Nous avons vu, Paul est en train de s'adresser aux Éphésiens. Éphésiens, c'est un mélange de juifs et puis un mélange de païens qui, chacun, de par ses origines, sont venus et se retrouvent en la personne de Jésus-Christ. C'est Christ qui rassemble. C'est pas l'arrière-plan, ce n'est pas la culture, c'est Christ qui rassemble. Et ça reste toujours vrai. Et maintenant qu'ils sont venus à Christ, chacun est venu dans l'état où il se trouve. Mais une fois qu'on rencontre Christ, alors là, le travail commence. Hein, Dieu, c'est le Seigneur qui fait la transformation. C'est pas beaucoup de religions, c'est fais des efforts, fais ceci, fais cela, essaye de te rendre acceptable à Dieu. Mais c'est impossible. Vous savez, parfois, on croit que ça passe. Parce que notre vie, je ne pas le pire, ça peut aller. L'autre jour, je regardais à travers du pare-brise de la voiture et dans la nuit, j'avais l'impression que mon pare-brise était clair et que je voyais clairement. Mais le lendemain, au coucher du soleil, j'avais le soleil en plein dans le pare-brise, alors là, je ne voyais rien. Tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gras à l'intérieur de mon pare-brise. Moi, je croyais que c'était bon, mais finalement, à la lumière du soleil, tout d'un coup, la réalité paraissait. C'est que j'avais l'impression que c'était même dangereux de conduire. Vous savez, des fois, on peut croire dans ce monde et on a l'impression d'être ce qu'il faut et à la hauteur de ce qu'il faut, mais il faut se dire, le test, ce sera quand ce sera la lumière de Dieu qui brillera sur nous. Et c'est là où le test final sera. Hein. Ce n'est pas dans le noir si je suis beau, c'est à la lumière si je suis beau, hein, si je suis acceptable. Et donc, l'apôtre Paul est en train de parler à ces Éphésiens, dit, ouais, non, ce que vous avez fait, c'est très bien. Vous êtes venu à Christ, vous avez été transformé, vous avez votre salut, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a une œuvre de transformation en nous. La semaine dernière, nous avons parlé des versets 7 à 9, nous avons un peu parlé des dons spirituels de l'Esprit, que l'Esprit donne à chacun, à qui il veut, pour l'utilité commune. Nous avons insisté sur le fait que ces dons spirituels, ce n'est pas nous qui les recherchons, c'est lui qui les distribue en fonction du besoin dans la communauté. Et ici, ce qui est extraordinaire, et à partir du verset 11, vous voyez qu'il dit « il a donné les uns ». Il, c'est qui? Dieu. Il a donné. Et il nous parle d'hommes. Maintenant, ce n'est pas des dons, il parle d'hommes. Il nous a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et au risque de parler des hommes, je veux dire que ce qui importe dans ce passage, ce ne sont pas les hommes, c'est l'œuvre qui doit être accomplie. Hein, ce n'est pas souvent, mais dans notre monde, peu importe ce qui arrive, on colle des noms, on met l'homme en honneur. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le serviteur qui est mis en honneur, c'est l'objectif. Et c'est là, c'est pour ça qu'il dit, oui, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme... Mais pour le perfectionnement, c'est ça le point important. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et à moins que le perfectionnement se fasse, peu importe des qualités, des talents, des dons, de l'ancienneté, tout ça, ça ne vaut rien si le perfectionnement n'est pas en train de se faire. Et donc la préoccupation pour chacun de nous, c'est bah, « Oh, si j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais j'aimerais bien pouvoir, si je pouvais parler comme lui, je pouvais prier comme l'autre, alors si je pouvais... » Non, non, c'est pas... C'est question de « Est-ce que le perfectionnement se fait ?» Le perfectionnement de chacun, dans chacune de nos vies. Et donc il dit « Ces hommes ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement, pour réaliser deux choses. Hein, le perfectionnement en vue de... 1. L'œuvre du ministère, du corps de Christ. Et 2. En vue de l'édification du corps de Christ. Donc il y a le corps de Christ qui se développe, s'épanouit, et puis il y a aussi le service qu'il apporte. Et ces hommes ont été donnés, non pas pour donner du statut, mais pour qu'une œuvre se fasse. Et nous ne devons pas nous laisser détourner de cela, malgré les tendances qu'il peut y avoir dans le monde. Nous remarquons que c'est, bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui inspire l'apôtre Paul à écrire cela, donc c'est exactement ce qu'il pense, et comme le Saint-Esprit, c'est la personne de la divinité qui agit parmi les enfants de Dieu, et donc c'est son objectif. Et à partir du moment que c'est ce qu'il veut réaliser, eh bien, si moi je travaille dans le même sens, tout va bien. Si moi je cherche autre chose, si je cherche ma propre gloire, alors là, lui, il retire les mains. Hein? Et malheureusement, beaucoup de choses se font au nom de Christ qui ne le sont pas. Hein? L'Esprit de Dieu n'est pas dedans. Et alors, on est obligé de faire recours à des gadgets, à de toutes sortes de contraintes, de méthodes commerciales et tout cela pour essayer d'obtenir du résultat. Mais le Saint-Esprit est largement capable de réaliser ses objectifs, celles qui lui ont été données, confiées. Remarquez que quand il parle du perfectionnement des saints, eh bien, ce qu'il a proposé, ce n'était pas un séminaire de plus. C'est étonnant... le nombre de séminaires qu'on peut avoir dans le monde chrétien et des séminaires sur le mariage, et puis il y a toujours des problèmes, des séminaires sur l'évangélisation, des séminaires sur la vie chrétienne, des séminaires sur tous les sujets, et le christianisme, il se porte pas mieux. Ce ne sont pas les séminaires, ce ne sont pas... Et puis après, il y en a d'autres qui proposent un programme. Voilà, il y en a un programme. Ça, c'est le programme Barnabas. Ça, c'est le programme André. Ça, c'est le programme Saint-Pierre. Ça, c'est le programme... Et puis, on a toutes sortes de beaux noms qu'on a tirés, trouvés dans la Bible. Mais ce n'est pas des programmes non plus. Le Saint-Esprit ne veut pas faire son œuvre au travers d'un programme. Les programmes, c'est des outils. Les séminaires, ce sont des outils. Mais ce n'est pas, l'essentiel. Il dit, mon travail, je le fais, et c'est ça, et c'est ça qui m'étonne le plus, c'est que Dieu veut faire son travail à travers des hommes. Au moins s'il avait pris des anges, mais des hommes. Nous avons tous assez à faire avec les hommes pour savoir que c'est pas tout à fait ça. Hein? Pour mon épouse, ça commence avec son mari, hein, son problème. Mais bon, c'est comme ça. Mais Dieu se sert des hommes. Vous savez, ce que je trouve extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il ne choisit pas toujours le moyen le plus facile, le plus commode. Parfois, il dit, moi, j'aime bien les situations impossibles, parce que là, j'apparais. Hein, il aime bien prendre la voie la plus difficile, l'évangélisation du monde, et bien il dit, je vais me servir des êtres humains qui seront des témoins. Plutôt que faire quelque chose d'extraordinaire dans le ciel, je ne sais pas, on peut. Les hommes, ils ont des idées, hein, comment on peut faire quelque chose, mieux faire les choses. Une fois, j'avais lu, il y avait quelqu'un qui a pris, s'est dit, moi, je vais faire quelque chose. Il a pris une montgolfière, et puis de là-haut, il jetait les traités comme ça, et puis il dit, voilà. Vous voyez, bon, ça a mis du papier dans les jardins, hein, c'est tout ce que ça a fait. Mais, vous savez, Dieu dit, je me sers des êtres humains. Et donc, nous venons ici, alors il dit, j'ai donné. C'est lui qui donne, c'est pas les hommes qui se disent, moi, je crois que j'aimerais être prophète, alors je suis prophète. Puis un autre qui dit, moi, je suis apôtre. Et ça se fait, hein. Vous allez sur la télé, vous les trouvez, il y en a plein. Des gens qui se disent prophètes, des gens qui se disent apôtres et des autres qui se disent toutes sortes de choses. À partir du moment qu'ils se nomment, ils ne le sont certainement pas. Parce que c'est Dieu qui donne. Et si, quand c'est Dieu qui donne, si c'est Dieu qui donne, eh bien, on n'a pas besoin d'informer les croyants de ce qu'il est. C'est eux qui vont le reconnaître. Hein, c'est l'Église qui reconnaît les serviteurs que Dieu donne. C'est pas le serviteur qui déclare. Si vous avez besoin de le dire que vous êtes apôtre, bon, ça veut dire que c'est pas assez évident et qu'ils ne l'ont pas remarqué. Donc, qu'est-ce qu'il donne? Il a donné les apôtres et les prophètes, d'une part, et les évangélistes et pasteurs docteurs, d'autre part. J'ai mis deux catégories parce que je considère que les deux premiers sont temporaires et les deux autres sont permanents. Et je vous dirai pourquoi. Premier, d'abord les ministères temporaires, donc ces hommes avec ces ministères temporaires, les apôtres et les prophètes. Vous remarquez déjà au chapitre 2, on l'a déjà vu, chapitre 2, verset 20, il nous dit que l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc lui, il est le personnage clé, mais Dieu s'est servi des apôtres et des prophètes pour donner la base de la doctrine de l'Église. Aussi au chapitre 3 et au verset 5, et il dit là, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce sont ces apôtres, ces prophètes qui étaient là, qui étaient à la base de l'Église primitive, qui ont établi les bases dans la doctrine, dans les pratiques. Et c'est pour ça que nous lisons régulièrement, nous relisons le Nouveau Testament, nous relisons. C'est pour savoir exactement comment nous devons nous comporter. Et ce n'est pas avec des révélations récentes. Les apôtres. Bon, je voulais dire aussi que c'est Dieu qui les a établis, apôtres et prophètes. Il nous dit dans 1 Corinthiens 12, 28, il dit c'est lui qui les a établis, apôtres et prophètes. Les apôtres, eh bien, les apôtres, le mot apôtre, eh bien, veut dire un envoyé. C'est tout ce que ça veut dire, c'est un envoyé. Donc un envoyé, ça, pour être un envoyé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui envoie. Hein. Et puis si on l'envoie avec une mission, avec un message. Donc, ce qui importe, donc ce n'est pas tellement l'envoyé qui importe, c'est celui qui envoie qui est important et le message qu'il porte. Hein, vous recevez une lettre, une gentille lettre avec un beau message qui vous dit quelque chose, eh bien, vous n'embrassez pas l'enveloppe. L'enveloppe, c'est ce qu'il a apporté. c'est la lettre qui importe, c'est celui, et vous regardez vite à la fin de la lettre pour voir qui est-ce qui a écrit cela. Et c'est ça qui est important. Hein, ce n'est pas l'enveloppe. Hein, lorsque quelqu'un vous dit quelque chose de gentil au téléphone, ben, vous ne tombez pas amoureux du téléphone. Si vous pensez à la personne. Et c'est pareil, ces hommes, c'est des envoyés, et c'est pas, et on n'a pas besoin pour les honorer, on n'a pas besoin de les appeler des saints, Saint Jean, Saint Paul, Saint Philippe, Saint ceci. Ce sont des envoyés, c'est des hommes ordinaires à qui Dieu a confié un message. Bien sûr, nous les respectons, nous les honorons. Mais ce qui importe, et ce que nous devons retenir, c'est Dieu l'a envoyé, et le message était pour nous. Dans la Bible, eh bien, nous trouvons ceux qui sont appelés les apôtres de Christ, et puis il y a ceux qui sont appelés les apôtres envoyés par l'Église. Hein, donc, les apôtres de Christ, eh bien, ce sont les 12 apôtres moins Judas, qui a été remplacé par Matthias, et aussi il y a aussi l'apôtre Paul, hein, qui est appelé apôtre, l'apôtre des païens. Les exigences pour un apôtre, c'est qu'il a été envoyé par Christ personnellement et qu'il a vu le Christ ressuscité. L'apôtre Paul l'a vu un peu en retard, hein, il le dira dans 1 Corinthiens 15, il a dit « moi je l'ai vu comme à l'avorton, il s'est révélé à moi autrement, mais j'ai vu le Christ ressuscité ». Et donc, en fait, les apôtres, on ne peut pas les avoir maintenant parce qu'il n'y a personne qui est personnellement envoyé par Christ et il n'y a personne qui a vu le Christ ressuscité. Nous le croyons, c'est par la foi, pas parce que nous l'avons vu. Et ces hommes ont été choisis par Christ. Jésus l'avait promis, vous savez, dans la chambre haute, et je vais assez rapidement, là je ne vous donne pas toutes les références, mais si vous voulez après, vous pourrez avoir une copie des notes, hein, avec toutes les références. Mais vous savez, dans la chambre haute, Jésus était en train de parler à ses disciples, et vous vous souvenez qu'il a dit à un moment, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire maintenant. Un, parce que eux, ils pensaient carrément à autre chose que lui, hein, ils étaient sur une autre planète que lui. Pour eux, ils imaginaient Jésus-Christ qu'un de ces jours, tout d'un coup, il va devenir roi et puis ils seront premier ministre. Et puis, ils se voyaient déjà dans des belles maisons. Et puis, Jésus, lui, il était carrément en train de penser à la croix. Donc, il a dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Soit dit en passant, hein, si notre pensée ne s'aligne pas sur Christ, eh bien, il y a des choses qu'il ne peut pas nous expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Si moi, déjà, avec ce que je peux comprendre, si je ne m'aligne pas et je n'adopte pas sa pensée, eh bien, il y a des tas de choses que je ne vais pas comprendre. Et donc, il a dit, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint, et lui vous rappellera ses paroles. Et vous comprenez très bien, vous avez suffisamment lu pour savoir qu'après Pentecôte, quand ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, tout d'un coup, leur pensée s'est alignée sur la pensée de Christ. Et là, Dieu pouvait leur enseigner. Et donc, ces apôtres, pendant leur ministère, pendant leur vie, eh bien, ils ont pu recevoir des enseignements par l'Esprit Saint et qui ont été, pour la plupart, rédigés. Tout ce qui était pour nous a été rédigé, a été révélé. Et c'est pour ça que nous avons ces textes. Donc, nous avons et les évangiles, et les épîtres, et la révélation de l'apôtre Jean. Et donc, c'était prévu. C'est pas eux qui ont commencé à se dire, mais bon, il faudrait qu'on complète un peu cette doctrine, cette confession de foi. Non, non, c'est Jésus l'avait déjà prévu et il leur a révélé ces choses au fur et à mesure parce qu'ils étaient en état pour le recevoir et pour comprendre. Et donc, ils l'ont enseigné. Donc, c'était un rôle essentiel des apôtres dans l'Église primitive parce qu'il n'y avait pas de texte, il n'y avait que l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Nouveau. On ne pouvait pas consulter, donc on consultait les apôtres. Pour dire qu'est-ce que Jésus a dit sur ce sujet, qu'est-ce que Jésus pense sur ce sujet. Et éventuellement, quand les choses sont écrites maintenant, eh bien, on ne consulte pas Saint un tel, mais on consulte la Bible. Et d'où l'importance que nous accordons à l'étude et la lecture de la parole de Dieu. Donc, il n'y a plus d'apôtres dans le sens de l'Église primitive, avec l'autorité qu'ils avaient. Hein, eux parlaient pour Christ. Aujourd'hui, on n'a plus cela. Bien sûr, vous allez trouver des églises qui ont des apôtres et qui prétendent avoir des apôtres. Et il y a des gens qui se disent apôtres, mais bon, peu importe. Hein, ce qui importe, c'est ce que la Bible dit et ce qu'elle enseigne. Et la révélation est complète, il n'y a rien à ajouter. Et les apôtres, le dernier, l'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos et à qui a été révélée la révélation de Jean, hein, donc l'Apocalypse, eh bien, voilà le dernier des textes. Les prophètes, il faut rappeler que les prophètes, même dans l'Ancien Testament, le rôle premier des prophètes, ce n'était pas de prédire. Hein, ça a pris ce sens de toujours prophétiser, ça veut dire parler des événements futurs. Mais il faut comprendre que les prophètes, eh bien, étaient là pour rappeler le peuple et puis le faire revenir à Dieu. Hein, vous lisez toujours, c'est les prophètes, leur but c'était de leur rappeler les pensées de Dieu, les paroles de Dieu. Et dans le courant de son exhortation et son enseignement, eh bien, il leur parlait des événements futurs, des malheurs futurs et aussi des projets futurs. Mais le but essentiel, c'était l'exhortation. Et en 1 Corinthiens 14, verset 3, il nous dit que c'était le prophète, son but, c'est l'exhortation, l'édification et la consolation. Donc ce sont, dans le contexte de l'Église primitive, comme il n'avait pas un texte imprimé, comme nous l'avons, ni un rouleau écrit à la main, eh bien, ce qui arrivait, c'est que dans l'Église, quand l'Église se réunissait et puis qu'on traitait un sujet, eh bien, il y avait ces hommes qui étaient reconnus comme étant prophètes, c'est-à-dire qu'ils se levaient l'un après l'autre et ils parlaient et ils étaient les responsables pour enseigner l'Église et pour dire à l'Église ce qui devait se faire et ce qu'on devait penser. Et comme ils étaient plusieurs, et c'est le fait qu'ils parlaient tous dans le même sens, même s'ils étaient plusieurs parlaient, le fait qu'ils étaient plusieurs, eh bien, ça permettait à l'Église de savoir que c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui était en train d'agir. Et donc, c'était pour l'exhortation. Au fur et à mesure, ces choses ont été rédigées, ont été écrites et exposées. Et donc, maintenant, nous savons, bien sûr, la tendance de l'être humain, c'est toujours vouloir toujours chercher du nouveau. Mais, vous savez, déjà, si on mettait en pratique ce qui était déjà dans la Bible, ce serait pas mal. Hein. Et donc, ces prophètes pouvaient se lever. Dans 1 Corinthiens 13, il dit, si... j'arrive pas à démarrer la phrase, 1 Corinthiens 13, concernant... s'il y avait les prophéties, verset 3, il dit... Verset 2. « Et quand j'aurai le don de prophétie, c'est-à-dire la science de tous les mystères et toute la connaissance, donc c'est ça, il est en train de dire, si j'ai le don de prophétie, c'est-à-dire la science ou la connaissance, la capacité d'exprimer, d'expliquer tout ce qui n'est pas clair aux gens, et d'ici, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Il dit, même si on est prophète, et si on arrive à cerner des choses et à comprendre des certaines réalités de la parole de Dieu et de la pensée de Dieu, bon, il dit, mais même un prophète sans l'amour, ben, ça ne sert à rien. Donc, mais justement, il disait, voilà, c'est ça le prophète, c'est celui qui avait cette capacité d'expliquer les choses aux autres. Maintenant, lorsque nous voulons comprendre, eh bien, nous ouvrons nos Bibles. C'est pour ça que nous avons tous des Bibles. Nous les ouvrons et nous essayons de lire pour comprendre ce qu'il y a. Paul dira dans 1 Corinthiens 13, il dira qu'il viendra un temps où les prophéties prendront fin. Et ça, c'est lorsque le texte sera écrit, donc on n'aura plus besoin de quelqu'un qui a un don de prophétie, parce qu'on pourra lire le texte et chacun pourra lire pour lui-même. Donc, il n'y a plus maintenant au stade où nous sommes, il n'y a plus de prophètes dans le sens de l'Ancien Testament. Et nous devons même nous méfier de ceux qui prétendent avoir reçu une prophétie, parce que des prophètes, il y en a encore. Hein. Depuis Christ, il y en a pas mal. Et Galates, l'épître de Paul aux Galates nous donne cet avertissement et dit, écoutez, c'est pas parce que quelqu'un prétend qu'un ange lui est apparu qu'il faut le suivre. Il dit aux Galates, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire nous, apôtres, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Il dit, peu importe, lorsque quelqu'un arrive et puis dit, voilà, j'ai quelque chose de nouveau, j'ai une nouvelle révélation pour notre époque. Dites, mais est-ce que ça correspond à ce qu'il y a dans la Bible? Si ça, c'est carrément autre chose, eh bien il dit, écoute, tout de suite, éteins. Écarte-toi de ceux. Hein, si, et nombreux ont ceux qui ont tout d'un coup, ils ont dit, ouais, j'ai eu un rêve, j'ai eu une révélation. Et puis il y a des livres qui ont été écrits. Et puis c'est devenu la base de nouvelles religions, de nouveaux mouvements. Et certains s'appellent chrétiens, d'autres sont des sectes, d'autres sont carrément des autres religions. Mais toujours basées sur, on dit, c'est un prophète. Oui, mais qui a dit qu'il était beau? C'est lui qui a dit qu'il était prophète. Ah, il y a un problème déjà. Hein. Jésus-Christ lui-même n'est pas apparu comme ça. Il dit, moi je suis le Messie. Mais il y avait toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui ont permis de le reconnaître. Il était annoncé à l'avance. Il était préparé à l'avance. Donc quelqu'un qui apparaît de nulle part et qui dit qu'il est prophète, il y a de quoi se poser des questions. Puis et vous remarquez que dans ce passage, Éphésiens chapitre 4, il parle de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, pasteurs, mais il n'y a pas le mot prêtre. Il ne parle pas des prêtres. Hein? C'est bizarre. Parce qu'il y a une grande partie du christianisme qui a des prêtres. Et sans m'étaler longtemps, mais il n'y a aucune suggestion de prêtrise pour l'Église de Jésus-Christ. Nulle part. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 5 et 9, il parle que nous sommes un sacerdoce royal. Il nous parle d'un état futur. Nous sommes un sacerdoce royal, mais ça c'est tous les croyants. Sinon, en Hébreux 4, 15, il nous parle de Jésus-Christ comme étant le souverain prêtre, le souverain sacrificateur. Et il est vivant et il gère très bien. Il n'a pas besoin, il n'y a pas de sous-prêtre ni rien du tout. Mais il n'y a absolument rien. Et je n'ai pas pris longtemps parce que je n'avais pas beaucoup de temps hier soir, mais d'aller voir sur Internet, voir où ça a commencé. Et c'est quelque chose, cette histoire d'un sacerdoce dans les églises chrétiennes, eh bien, c'est plus de l'influence des religions païennes que de l'évangile, hein, du Nouveau Testament. C'est parce qu'ils commençaient à faire un amalgame, il y a des gens qui venaient des autres religions où ils avaient des prêtres. Et puis comme dans l'Ancien Testament il y a des prêtres, alors on a commencé à avoir des prêtres, mais on n'a pas besoin de prêtres. Christ est mort, un prêtre c'est pour offrir des sacrifices, mais il n'y a plus de sacrifice à offrir. Jésus-Christ est le dernier, et le seul sacrifice. Et lui, dans son sacrifice, il a été et le prêtre et le sacrifice. Parce que il s'est offert et ensuite il a porté son sang jusqu'à dans le lieu très haut. Hein, donc il a été et le sacrifice d'expiation pour le péché et le prêtre qui l'a porté. Donc il n'y a rien dans l'évangile, vous lisez de partout, vous ne trouvez pas qu'il y ait des prêtres dans l'église primitive. Hein. Et donc, le pasteur ne remplace pas, il n'est pas un prêtre, et en aucun sens du mot. Le prêtre, c'est celui qui est intermédiaire entre l'homme pécheur et le Dieu saint. C'est Jésus-Christ, le seul médiateur. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Jésus-Christ, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. Hein? Et donc personne d'autre n'a ce rôle aujourd'hui. Et nous avons accès directement à Jésus-Christ. Donc on a parlé des ministères temporaires, hein, les apôtres et les prophètes, dans le sens que l'évangile en parle. Il y a d'autres personnes qui ont été appelées apôtres, ou il y a eu d'autres prophètes dans l'Église primitive, mais après, bon, c'était des dons particuliers, mais ça n'a pas été présenté comme étant une pratique de l'Église. Hein. Si Agabus était un prophète, mais bon, c'était une fois, à une occasion. Il y avait les filles de Philippe, le diacre, eh bien, qui étaient prophétesses, mais c'est mentionné en passant, mais pas comme un enseignement, une pratique pour l'Église. Hein. C'est pas parce que ça a existé que tout d'un coup ça devient, c'est la base d'une pratique. On fonctionne sur des ordonnances, des commandements, et pas sur une pratique d'une époque. Ensuite, il y a les ministères permanents. Alors là, il parle de l'évangéliste et du pasteur-docteur. Donc les évangélistes, eh bien, l'évangéliste, ça vient du mot évangile, qui veut dire une bonne nouvelle, hein, et donc c'est celui qui porte une bonne nouvelle. Philippe, le diacre, hein, acte chapitre 6, il a été nommé diacre. Et bien par la suite, ben, il est devenu un tel témoin avec un don d'évangélisation qu'il est devenu évangéliste. Et c'est lui qui a porté l'évangile en Samarie. Il y avait très peu de juifs qui étaient disposés à emmener l'évangile aux Samaritains. Hein, vous savez déjà, hein, vous savez que le comportement des juifs. Mais Philippe, il avait l'avantage certainement d'être né un peu... Hein, si, parce que son nom Philippe n'est pas un nom hébreu, hein, c'est un nom grec. Donc c'était un juif, mais qui a été élevé chez les Grecs, et donc lui, il était un peu déjà, il avait la pensée ouverte. C'est peut-être plus facile pour lui d'aller chez les Samaritains. Et Dieu s'est servi de lui, et il est allé chez les Samaritains. Il y a eu, l'œuvre de Dieu s'est faite, parce que Dieu ne fait pas de distinction. Puis ensuite, il y avait l'Éthiopien, sur le chemin du désert, hein, chemin qui mène à Gaza, et Dieu a trouvé Philippe comme étant celui le plus apte à s'approcher de cet Éthiopien. Parce que peut-être qu'il y avait les autres, ils avaient encore leurs idées, non, c'est l'évangile, c'est uniquement pour les juifs, vous savez, c'était l'église primitive, ils avaient leurs difficultés aussi, et donc Dieu prend Philippe et l'emmène, et Philippe s'est engagé la conversation, et il va pouvoir parler à cet Éthiopien qui va se faire baptiser et il y aura un changement. Donc, il est appelé, il est même connu dans Actes chapitre 21, il est connu, hein, il a une réputation d'être évangéliste. C'est celui qui prêche l'évangile et qui le rend clair. L'apôtre Paul dira à Timothée, il dit, écoute, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et finalement, nous sommes tous appelés à être des témoins. Hein, il est important pour nous de pouvoir expliquer ce que nous croyons, pourquoi nous le croyons, et de pouvoir expliquer à quelqu'un d'autre comment venir à Christ. Hein. Mais l'évangéliste est celui qui a fait de la proclamation de la bonne nouvelle sa priorité, sa fonction principale, son activité principale. Et le Seigneur a donné, hein, certainement un qui a été très connu pendant longtemps, hein, c'est Billy Graham, hein, c'était un gars qui arrivait à exprimer les choses si simplement, hein, il disait ça si simple, et c'était si clair, c'est un don de pouvoir exprimer les choses si clairement. Et il y en a beaucoup d'autres, hein, qui sont connus, et d'autres qui ne sont pas connus, hein, et chaque pays a ses évangélistes. Puis ensuite, il nous parle des évangélistes, ensuite il nous parle des pasteurs-docteurs, et ce n'est pas... Parce qu'il ne dit pas les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs, il dit les autres comme pasteurs et docteurs. Donc on comprend ça par cette structure, que certainement c'est deux fonctions d'une même personne. Le mot pasteur, bien sûr, ça veut dire un berger, hein. Hein, pasteur, pastoral, c'est un berger. Et puis docteur, c'est celui qui enseigne. C'est celui qui s'occupe du troupeau de Jésus-Christ. Hein, les croyants, c'est comme les brebis du Seigneur, et puis les confie à quelqu'un, hein, pour les nourrir, pour les guider, pour prendre soin d'eux. En fait, le grand pasteur de nos âmes, eh bien, c'est Jésus-Christ. Hein, Hébreux 13, il nous dit Jésus, l'archiponème, hein, l'archi-pasteur de nos âmes, c'est Jésus-Christ. Hein, donc, et Jésus-Christ n'est pas situé à Rome. Hein. Donc, les évangélistes et les pasteurs docteurs ont pris la relève des apôtres et des prophètes, et c'est eux maintenant, un pasteur, normalement, eh bien, il se sert du texte. Hein. Il va pas chercher des idées dans les nuages, mais il se sert toujours du texte. Et c'est à partir de là qu'il enseigne. Hein, donc, nous avons ce texte et nous le faisons avec une Bible ouverte pour que tous. Donc, le texte est complet. Donc, on n'a pas besoin de personnes qui ont un don particulier pour essayer de nous aider à connaître la pensée de Dieu, alors que nous avons les textes, nous les lisons, nous les étudions. Et tant que ce n'est pas clair dans votre tête, eh bien, vous dites, bon, un jour je comprendrai peut-être. Mais ce qui importe pour nous, c'est que, parce qu'on ne peut pas comprendre sans l'Esprit de Dieu, hein, même si on a un pasteur, mais c'est quand même l'Esprit de Dieu, c'est grâce à lui qu'on comprend des choses. Et donc, le jour où je comprends une chose, je deviens responsable. Hein. Le jour où j'ai compris, eh bien, après, je dois le vivre et le Seigneur me tient responsable pour cette information que j'ai reçue. Et si je ne mets pas en pratique ce que j'ai compris, eh ben lui, il ne va pas continuer à nous expliquer autre chose. Hein. On ne peut pas aller plus loin. Hein. Si vous n'avez pas passé passer le niveau de CM2, ben on ne peut pas rentrer en 6e, c'est tout. Hein. Ben, il dit, non, déjà, assimile bien ce qui est à ton niveau là, et ensuite on pourra te donner de nouvelles choses. Il y a des gens qui veulent comprendre les mystères de ceci, cela, et comment Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 3 jours dans la tombe. Écoute, doucement là, et ça changerait quoi ta vie? Mais essaye de... Comment le Seigneur intervient dans ta vie de tous les jours, hein? Pouvoir prier et savoir que je parle vraiment avec Dieu et que Dieu peut agir sans moi, ça c'est quelque chose d'utile. Hein? C'est pas la peine de se poser la question que Saint Augustin s'est posée en se demandant combien d'anges pouvaient se tenir sur la tête d'une aiguille. Et alors, que ce soit 1000 ou que ce soit 10 000, ça change quoi dans ma vie de tous les jours? Hein? Mais essayons d'apprendre à vivre cette vie. Il y a d'autres termes que vous allez trouver dans le Nouveau Testament, ce sont les termes d'évêques et d'anciens. Hein, il parle des évêques et des anciens. Ce sont d'autres termes qui sont associés à pasteur. Finalement, le mot évêque veut dire le surveillant. Et le mot ancien, ben, c'est justement cette notion de personne mûre, qui a de l'ancienneté dans les églises. Et donc... Finalement, ils sont un peu équivalents, même si c'est un peu des aspects différents de la même personne. Et dans les églises, ben, nous avons souvent des anciens qui travaillent. Et puis l'un des anciens serait le pasteur. Mais ce sont des fonctions. Mais sinon, ce sont des hommes qui sont reconnus dans l'église comme ayant une certaine maturité, une certaine compréhension et qui font usage. Hein, vous lisez dans les passages qui nous décrivent les conditions de qui peut être ancien et qui peut être diacre. La seule différence, c'est que l'évêque ou l'ancien, eh bien, puissent enseigner la parole. Hein. Sinon, les exigences sont les mêmes. Les anciens, c'était la traduction de presbytéros, hein, ces personnes, ce conseil qui apporte de la direction à l'Église. Surtout, il faut se souvenir que ces hommes, hein, qui ont ces fonctions, que ce soit pasteur, évêque, ancien, ou évangéliste, ce ne sont pas des hommes qui sont supérieurs dans l'Église, hein, ce ne sont pas autre chose, ce sont des frères comme les autres, mais ce sont des personnes à qui a été confiée cette responsabilité du perfectionnement des saints. Hein, c'est des personnes qui ont à cœur cela et qui y travaillent. Lorsque je reviens à Éphésiens, là, il dit « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, on a besoin de coach. Hein. C'est l'expression qui est très à la mode, un coach. Hein, c'est quelqu'un qui nous accompagne, qui me dit, écoute, il y a un truc là à travailler, fais ceci, cela, et qui reste avec nous. Mais en fait, hein, c'est le joueur, hein, qui perfectionne. Mais mes enfants, ils étaient toujours étonnés que je leur ai enseigné à faire du patin à roulettes alors que je ne savais pas moi-même. C'est quand ils ont compris ça... Bon, vous savez qu'avec l'âge, les enfants, ils se rendent compte que les parents, ils n'étaient pas si sages que ça. Mais bon, c'est comme ça. Mais ils étaient étonnés. Mais c'était une question de les encourager. Attention, fais-y. Et puis c'est eux qui ont... Mais vous savez, en tant que chrétien aussi, on peut avoir quelqu'un qui est là pour nous aider. Mais c'est à chacun d'apprendre à marcher. C'est à chacun de vivre la vie chrétienne. C'est le perfectionnement des saints. Ce n'est pas le perfectionnement des pasteurs. Ce n'est pas le perfectionnement des évangélistes. C'est le perfectionnement des saints. Et le pasteur fait partie ces saints. Hein, donc c'est pour ça que j'ai commencé au début, j'ai dit la pensée essentielle, c'est le perfectionnement des saints, chacun individuellement. Et peu importe qui le Seigneur utilise, que ce soit une sœur plus âgée, que ce soit une autre personne, peu importe. Ce qui importe, c'est que il parle du perfectionnement. Perfectionnement, ça veut dire que la perfection, ça veut dire d'être accompli, réalisé. Hein? Donc, qu'on arrive à ce point, qu'on approche et on tend vers ce point d'être de plus en plus à l'image de Christ. Et Dieu, le Seigneur se sert de nous. Nous recevons de quelqu'un. Moi-même, je reçois, même si je suis pasteur, même depuis 40 ans, je suis pasteur. J'ai été ordonné en 74, mais moi, je lis, je reçois, j'enseigne, je reçois l'enseignement. Tous, on a besoin de ce perfectionnement. Hein. On est tous là, un aide de l'autre, et puis tous ensemble, et on avance. Et c'est l'œuvre de Dieu. Et ce perfectionnement, je ne vais pas le développer, mais je vais juste citer ces quatre outils fondamentaux utilisés pour le perfectionnement des saints. La parole de Dieu, hein, qui dit toute parole est inspirée de Dieu pour notre enseignement. Hein, donc 2 Timothée 3, 16 à 17, l'importance de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous insistons énormément et nous consacrons une bonne partie de notre rencontre pour l'enseignement de la parole. Deuxièmement, il nous parle de la prière, Colossiens 4, 12 à 13, je crois que c'est Epaphras qui priait pour le perfectionnement des saints. Dans Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3 à 4, il parle de l'épreuve, comment Dieu se sert de l'épreuve pour nous transformer. Et 1 Pierre 5, 10, il nous parle aussi de la souffrance. Hein, vous savez que les leçons qu'on apprend dans la souffrance, on les retient plus longtemps. C'est comme ça. C'est pas agréable. C'est les leçons qui nous ont coûté le plus cher, ce sont celles qu'on retient le mieux. Donc il y a souvent ce perfectionnement se fait dans la souffrance, non pas que Dieu prenne plaisir à nous voir souffrir, mais il prend plaisir à nous voir se devenir de plus en plus à l'image de Christ. Cette consécration, cette transformation, ce renouvellement de l'intelligence et cette transformation dans notre vie. Et donc, retenons de tout cela, hein, je n'ai pas voulu glorifier le pasteur ou l'évangéliste, mais nous dire que ce que Dieu désire, c'est le perfectionnement des saints que nous sommes. Nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, si nous sommes l'enfant de Dieu, nous sommes un saint qui a besoin d'être sanctifié. Hein. J'ai le statut de saint, et ensuite, il dit, bon, maintenant, on y travaille, et on le réalise. C'est un peu... Vous savez, il dit, bon, maintenant, tu es dans l'équipe. Maintenant, le coach, il va t'apprendre à bien jouer. Hein, c'est comme ça, c'est la pensée de Dieu. Et c'est extraordinaire. Parce que si on attendait que je sois bon pour m'intégrer, ben, je ne serais jamais. Mais il dit, non, tu rentres, et puis après, tu apprendras à marcher avec les autres. Et c'est ça, la beauté de l'évangile et du message de Dieu. Et si vous êtes, j'espère que nous sommes chacun enfants de Dieu et que nous avons reçu Jésus-Christ. Et voilà, on se trouve. La différence entre nous, c'est que nous sommes à des stades différents. Et nous sommes en train de travailler sur différents domaines, mais tous ensemble. Et nous encourageons, nous prions les uns pour les autres. Et nous soutenons les uns les autres dans cette démarche. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Te remercions de ce que tu n'as pas compliqué la vie de l'Église en donnant toute une hiérarchie de personnes et du poids à porter et de la structure. Mais Seigneur, tu dans la parole, nous trouvons un système très simple, souple et qui s'adapte à toutes les circonstances, que l'Église soit en persécution, que l'Église soit... libre, qu'elle ait des grands moyens ou qu'elle ait de petits moyens. Seigneur, tu nous as donné quelque chose de très simple, très ordinaire, un peu comme ton ministère sur terre. Mais l'ambition est grande. C'est que l'épouse de Christ, un jour, puisse être présentée glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, c'est donner un défi extraordinaire. Seigneur, que nous puissions, nous, œuvrer avec toi, comprendre où tu veux aller et aller dans le même sens. Aide-nous, et je te prie pour chacun ici, Seigneur, que tu nous encourages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.